sur France Inter. Sébastien Paour, bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. L'armée pousse le président algérien vers la sortie. Le chef d'état-major déclenche la procédure d'empêchement contre Abdelaziz Bouteflika, vous l'entendrez. Et on verra avec Leïla Berhato à Alger ce que peut prévoir la constitution algérienne désormais. La République En Marche se lance dans la campagne des européennes. Le parti présidentiel confirme sa liste. Mais on verra qu'à 2 mois du scrutin, il n'est pas encore au point. Au sommaire également ce soir, Pierre Mazeaud qui témoigne à décharge au procès Tapie pour escroquerie. La réforme du droit d'auteur adoptée à Strasbourg, vous entendrez ses partisans comme ses opposants. Ces plastiques qui nous envahissent, journée spéciale demain sur Inter. Avec Combini, le marin François Gabart reconnaît qu'il n'est pas facile de s'en passer. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on range sa chambre, Sébastien, on range son bureau, son appart, sa voiture, ses tiroirs, puisque c'est le printemps, c'est le moment de mettre vos placards au régime cette saison. Et c'est la mode. Qu'est-ce que ça procure le rangement quand on range son bureau? Est-ce qu'on range aussi sa tête? Pourquoi j'arrive pas à jeter plus souvent? Si je jette mes objets, est-ce que je jette aussi une partie de ce que je suis? Le rangement, c'est maintenant 01 45 24 7000.
France Inter. Il a 82 ans et une bonne partie du pays contre lui qui manifeste depuis plus d'un mois pour réclamer son départ du pouvoir qu'il tient depuis 20 ans. Voilà le président algérien Abdelaziz Bouteflika poussé vers la sortie par son propre camp, par l'un de ses plus fidèles. Allocution télévisée cet après-midi du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah.
Pour sortir de cette crise immédiatement, une solution existe dans notre constitution. C'est la seule possible pour garantir une stabilité politique durable. Et je pense construire une sortie de crise qui réponde à l'appel du peuple. Cette solution est stipulée par la constitution dans son article 102.
Le général Salah déclenche la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution algérienne. C'est l'état d'empêchement du président. Bonsoir Leïla Berhato.
Bonsoir.
Vous êtes à Alger, Leïla. Que prévoit la Constitution dans ce cas?
Eh bien, cet article prévoit qu'en cas de maladie grave ou durable du président de la République, si ce dernier est dans l'impossibilité totale de gouverner, alors le Conseil constitutionnel doit proposer au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. C'est alors le président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat en Algérie, qui prend les rênes du pays. Après 45 jours, si le président n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions, alors le Parlement prononce l'état de vacance et à ce moment-là, après 90 jours, des élections doivent être organisé. Alors pourquoi le chef d'état-major a-t-il pris cette décision? D'abord, selon lui, il est nécessaire et impératif d'adopter une solution pour sortir de la crise. Il estime que les manifestations peuvent se transformer en une menace pour la stabilité. Pour lui, il faut une solution qui s'appuie sur la Constitution et qui garantisse le maintien de la souveraineté de l'État. Et c'est ce que permettrait l'état d'empêchement, selon lui. Mais pas sûr que cela puisse convaincre les manifestants qui, pour le moment, sur les réseaux sociaux, eh bien, expriment plutôt du scepticisme que de la satisfaction.
On a quand même entendu, merci Leïla Berhato en direct d'Alger, quelques klaxons tout à l'heure après l'allocution du général Salah dans les rues de la capitale algérienne.
Voilà donc enfin la liste en marche pour les européennes.
Oui, dévoilée cet après-midi à tout juste 2 mois du vote, avec des têtes connues, d'autres nettement moins, avec de la majorité et des places pour les alliés, Modem, Agir et Radicaux, une viticultrice, une navigatrice, des journalistes, le tout pour laisser à bonne distance les oppositions LR, PS et écologistes. On verra dans un instant que le RN suit tout ça de très près, même depuis les antipodes. Pour l'instant, direction le 13e arrondissement de Paris. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Où les noms derrière Nathalie Loiseau et Pascal Canfin ont donc été officialisés. Karine, vous les aviez déjà. La campagne peut maintenant commencer?
Oui, cette fois, le camp présidentiel est en ordre de marche avec des candidatures, vous l'avez dit, assez inattendues, des gens très peu connus. On a parlé tout au long de la journée de cette navigatrice, par exemple, Catherine Chabot. Il y a aussi l'ancien maire de Valenciennes, un proche de Jean-Louis Borloo, Dominique Riquet, plusieurs médecins également et quelques noms encore difficiles à prononcer, même pour le directeur de cette campagne des européennes, Stéphane Séjourné, qui va devoir se dépêcher de les assimiler.
Stéphanie Yoncourtin, normande, maire de Saint-Const, si je me trompe pas, je vais pas... Saint-Comté, excuse-moi.
Alors le tour de la campagne a été donné par François Bayrou, le partenaire Modem du parti présidentiel, qui a décroché pour ses européennes 5 candidats en position éligible, ce qui fait de lui le vrai gagnant d'aujourd'hui.
J'imagine qu'aucun d'entre ceux qui sont là n'est là avec légèreté. c'est le moment le plus grave et l'engagement le plus grave.
Donc l'Europe pourrait vaciller, il va falloir la réparer, la relancer. C'est exactement ce que souhaite la tête de liste Nathalie Loiseau, qui démissionnera officiellement demain à l'issue du Conseil des ministres.
Nous voulons être les incontournables de l'Europe. Nous voulons être les avant-centres de l'Europe.
La vraie surprise de cette liste, c'est la présence de Pascal Canfin, l'ancien directeur du WWF, pas franchement un macroniste fervent. Alors que fait-il là? Il s'est rapidement expliqué aux côtés de ses nouveaux colistiers.
Est-ce qu'on doit considérer que certains ont le monopole de l'écologie et que tout repose sur eux, mais que les autres ne doivent rien faire? Non, bien évidemment.
Quant aux priorités de cette campagne qui commence, elles restent floues pour l'instant. Certes, ce seront celles du président Macron, mais dans l'immédiat, ce que l'on a pu observer, c'est que peu de candidats installés sur le podium ont été autorisés à parler.
Karine Bécard en direct du 13e arrondissement de Paris avec Romain Lucquien. C'est Pascal Canfin sera demain à 8h20 l'invité de France Inter. La République En Marche dévoile sa liste. Le Rassemblement National n'en rate pas une miette, je vous le disais, même depuis Mayotte où Marine Le Pen est en déplacement jusqu'à demain soir. Avant la réunion, la patronne du parti d'extrême droite vient à parler immigration clandestine dans le département français voisin des Comores, avec Maxence Lambrecq à un œil sur son plus proche rival pour les européennes.
À 8000 km de Paris, un collier de fleurs autour du cou, Marine Le Pen savoure l'accueil qui lui est réservé.
Ça va bien, ça va bien.
Elle a réuni ici 42% des voix au second tour de la présidentielle.
Merci de nous accueillir si gentiment.
Ça fait longtemps, on l'a pas
vu. En deux ans.
Merci d'être bienvenue.
Dans ce décor de carte postale où immigration clandestine et insécurité font partie du quotidien, elle bat le rappel pour les européennes et se réjouit d'avoir désormais Pascal Canfin comme adversaire.
Monsieur Canfin est un adversaire absolument total de toute limitation de la politique d'immigration, vous le savez. Hein. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote où il était descendu d'un avion parce que dans cet avion était renvoyé un clandestin qui sortait de prison pour avoir violé, je crois, une petite fille ou un petit garçon. Donc vous voyez un petit peu quelle est l'idéologie de ce monsieur.
Quant au reste de la liste, voilà ce qu'elle en pense.
Un peu que j'en ai vu, c'est la foire-fouille, hein. On trouve de tout, y compris des profils qui sont extrêmement contradictoires. Hein. C'est le célèbre en même temps.
L'angle d'attaque est déjà trouvé. Marine Le Pen ne veut ici rien rater de l'actualité parisienne. Mahmoud Zou, Maxence Lambrecq, France Inter.
Le Rassemblement National qui enregistre une nouvelle mise en examen dans l'enquête sur ses possibles emplois fictifs au Parlement européen. Celle de Yann Le Pen, la sœur de Marine et mère de Marion Maréchal, qui organise les meetings du RN pour les européennes. Les enquêteurs ont des doutes sur les salaires qu'elle a perçus comme assistante de l'eurodéputé Bruno Gollnisch de 2012 à 2014, alors qu'elle était chargée des événements au siège du parti à Nanterre sur la même période.
Un homme interrogé dans l'enquête sur l'incendie mortel de Courchevel.
Deux morts et une vingtaine de blessés dans un bâtiment de saisonniers, c'était il y a deux mois. Le suspect est un homme d'une trentaine d'années connu pour trafic de drogue. Précision signée Christophe Van Ven de France Bleu Pays de Savoie.
C'est son pistolet automatique qu'il aurait trahi. Pistolet retrouvé très vite à proximité du bâtiment incendié. Dès le lendemain du sinistre, des témoins ont également signalé sa présence insistante, louche, bagarreuse dans le secteur. Pourtant, il aura fallu attendre plus de deux mois pour le confronter aux éléments de l'enquête. Le temps d'analyser les empreintes de l'arme, le temps de mettre la main sur ce dealer itinérant basé dans la région de Montpellier. Son activité d'importateur de drogue a voulu qu'il se fasse interpeller à la frontière franco-espagnole il y a une quinzaine de jours. Le soir du drame, il se serait violemment disputé avec deux saisonniers qui revendaient sa cocaïne sur Courchevel. Il frappe à la tête l'un d'eux avec la crosse de son pistolet, l'autre le désarme et s'enfuit dans son logement au second étage du bâtiment des saisonniers. Pour l'obliger à sortir, l'Héroleté aurait mis le feu. Voyant les flammes incontrôlées, il a préféré s'enfuir. Le saisonnier s'est lui aussi échappé, il s'est sauvé, indemne, et il s'est débarrassé de l'arme en la jetant dans la neige, une pièce à conviction décisive dans cette enquête.
L'animateur et chroniqueur Yacine Bellatar en garde à vue à Paris, visé par plusieurs plaintes pour menaces de violence ou de mort et pour harcèlement au travail. Il était entendu aujourd'hui après une plainte déposée par le producteur Bruno Gassio. Yacine Bellatar a été nommé l'an dernier par Emmanuel Macron au Conseil présidentiel des villes. Au procès tapis pour escroquerie dans l'arbitrage Crédit Lyonnais en 2008, la parole aujourd'hui à Pierre Mazeaud, l'ancien président du Conseil constitutionnel qui présidait le tribunal arbitral qui a accordé 404 millions d'euros à l'homme d'affaires. Il sera le seul arbitre à témoigner au procès. L'état de santé de Pierre Estoupe ne lui permet pas de le faire. L'expertise médicale l'a confirmé. Et Pierre Mazeaud, Sarah Guibaudot témoigne à décharge.
Pierre Mazeaud ne s'est jamais exprimé dans la presse sur cette affaire et il a beaucoup souffert de ce qui a été dit. « Je pense être un homme de caractère et d'honnêteté », déclare-t-il. La force de sa voix tranche avec sa frêle silhouette de 89 ans. « Si c'était à refaire, je reprendrais la même décision. Le Crédit Lyonnais s'est très mal conduit. » Derrière lui, Bernard Tapie sourit et fait des clins d'œil aux journalistes. Un peu plus tôt, le tribunal a confirmé que son co-prévenu, l'ancien arbitre Pierre Estoupe, 92 ans, n'était pas en état de comparaître. Pour les juges d'instruction, il n'est pas établi qu'il y ait eu collusion entre le camp Tapie et les deux autres arbitres, mais je cite « ils auraient été vite dépassés et auraient laissé Estoupe faire tout le travail ». Pierre Mazeaud s'insurge « j'ai présidé, je n'ai pas été manipulé, Pierre Mazeaud ne l'a jamais été dans toute sa carrière ». Il arrive à l'ancien député et ancien président du Conseil constitutionnel de parler de lui à la troisième personne. En revanche, il explique qu'en tant que président du tribunal arbitral, il n'avait pas à rédiger la sentence, ce qui dans un tribunal ordinaire peut paraître curieux.
Sarah Guibaudot, c'est un bilan réalisé par l'observatoire Clameur, celui sur l'évolution des loyers dans le parc privé. Il ne flambe plus, même s'il représente toujours une part importante du pouvoir d'achat des ménages. Le prix des locations est quasi stable en France et cette tendance de fond a de nombreuses conséquences. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Les loyers augmentent moins vite que l'inflation depuis 2007 et depuis 2014, ils ont baissé en moyenne entre deux locataires.
Oui, très peu de villes échappent effectivement à cette tendance. Les loyers à Nice, Lyon et Paris progressent tout de même, mais très légèrement, sans dépasser l'inflation, à peine 2% dans la capitale. Et partout ailleurs, explique le professeur d'économie du logement Michel Mouillard, on assiste à un décrochage.
Toutes les autres grandes villes connaissent une baisse du loyer entre deux locataires. Des fois, c'est pas grand-chose, 0,3-0,4% à Marseille ou à Lille, ou des fois, c'est beaucoup plus comme à Rennes ou à Toulouse.
Alors on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle pour les locataires, mais l'Observatoire propose une analyse un peu différente. C'est bien la paupérisation des locataires, la baisse de leur pouvoir d'achat sur plusieurs années qui explique cette baisse ou cette quasi-stagnation des loyers. Et la conséquence est plutôt inquiétante. Selon cet expert, les propriétaires auraient de moins en moins les moyens de rénover, d'entretenir, alors que c'est plus que nécessaire. Les voyants sont au rouge avec une chute des taux de logement connaissant des travaux quasiment divisés par 3 en une décennie.
C'est infernal parce que ça signifie qu'on va laisser se dégrader un patrimoine avec derrière une détérioration épouvantable des conditions de logement. Donc là, nous avons un vrai problème.
Problème de logement indigne, insalubre, autant de situations parfois dangereuses qui pourraient monter en puissance, conclut cette étude, dans les prochaines décennies.
Claire Chaudière, merci. Elle datait de 2001, une époque où YouTube n'existait pas. La législation européenne se met à l'ère numérique. Les eurodéputés approuvent la réforme du droit d'auteur réclamé par les médias et les artistes comme le DJ David Guetta ou la chanteuse Émilie Loiseau, mais combattu par les plateformes américaines évidemment comme Google ou Facebook et les partisans de la liberté en ligne. Tous ont fait un intense lobbying, mais au final le texte est approuvé par 348 députés à Strasbourg. 274 ont voté contre et il y a aussi 36 abstentions. Voici la satisfaction du directeur général de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Pascal Rogard, au micro d'Alexandra Hakoun.
C'est un peu plus de 4 ans de combat pour la défense de la création et c'est un grand moment très émouvant. Ce qui est le plus important dans cette directive, c'est les droits individuels qui sont reconnus aux auteurs et aux artistes interprètes. C'est-à-dire le principe de Beaumarchais qui a été créé en 1777, c'est-à-dire le principe que les auteurs ont le droit à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation, principe qui existe en France et dans quelques pays en Europe, est étendu à toute l'Europe. Donc le Parlement européen a voulu doter les auteurs et les artistes de droits personnels à rémunération, de capacité de mieux négocier leurs contrats. Et c'est très important au moment où on parle beaucoup plus des industries culturelles que des créateurs.
À l'inverse, évidemment, c'est un revers pour les industriels du net dont parlait Pascal Rogard. Revers aussi pour ceux qui défendent les internautes et leur liberté sur la toile, comme Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net. Il est avec Emmanuel Grabet.
Mettre en place des systèmes de censure automatique, ça devrait choquer beaucoup de monde en fait. Le problème c'est qu'on peut pas confier ça à des programmes informatiques. Combien de fois dans nos vies on s'est retrouvé face à un ordinateur ou à quelqu'un dans une administration ou dans une boîte privée qui nous dit « je peux pas vous passer à votre dossier parce que c'est l'ordinateur qui me dit que c'est pas valide ». On peut pas faire ça de notre société, c'est pas souhaitable. Je parle vraiment d'à quel point l'informatique nous fait déjà mal au quotidien en imposant des solutions qui sont purement basées sur des algorithmes et où on perd toute capacité de discussion avec un être humain ou de tout simplement d'application du droit. Parce que là, pour la directive copyright, on parle vraiment du fait que le droit permet un certain nombre d'usages légitimes d'œuvres protégées par le droit d'auteur qui sont pas du tout visibles aux robots copyright de YouTube et de Facebook.
L'Europe, encore avec celle qui ne sait plus comment sortir de l'impasse du Brexit, alors Theresa May aurait mis sa démission dans la balance. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sébastien.
La première ministre britannique songerait à quitter Downing Street en échange du vote de son accord de divorce, c'est ça ?
Oui, scénario rocambolesque, mais vu la confusion qui règne ici, eh bien tout est possible. Scénario relayé par une partie de la presse britannique, Theresa May serait donc prête à dealer avec une majorité Tory qui depuis des semaines défie son autorité. L'accord pourrait être scellé demain en fin de journée et la date de la démission annoncée dans la foulée. Ce qui est avéré, c'est que Theresa May n'a pas renoncé à soumettre aux députés un texte pourtant rejeté à deux reprises, en espérant obtenir enfin le soutien des ultras du Brexit, députés conservateurs ou nord-irlandais du DUP, l'allié qui depuis le début lui fait défaut et qui fulmine ce soir encore contre un accord de Brexit toxique. Pendant ce temps, au Parlement, les députés cherchent un plan B. Ils ont hier soir repris la main sur l'agenda et vont examiner demain les alternatives au texte de Theresa May. Sortie sans accord, maintien dans l'union douanière, nouveau référendum ou abandon pur et simple du Brexit. Rien ne dit qu'une majorité se dégagera. Et si c'est le cas, rien ne dit que le gouvernement l'acceptera. Blocage, nouvelles élections, autre scénario envisagé, un de plus, avec à la clé le départ de Theresa May.
Louise Baudet, merci, en direct de Londres. Donc peut-être un troisième vote des députés britanniques jeudi sur le texte négocié par la Première Ministre.
Allez, il est 19h, presque 17, Sébastien. Comment en finir avec les chants haineux et les insultes racistes et homophobes dans les stades?
La question était en débat aujourd'hui au ministère des Sports. La ministre prône des sanctions pour les fans et les clubs. Là où la présidente de la Ligue de football professionnel met en avant le principe de réalité, Cécilia Arbona, et la difficulté de faire taire des tribunes tout entières.
Deux femmes et deux approches différentes. Choquée par les insultes entonnées en chœur dans les stades, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, est ferme.
Avoir des propos contre les homosexuels, même si on ne s'en rend pas compte, c'est important que ce soit relevé au moins. Et puis derrière, interdit. Il faut aussi que les clubs s'impliquent aujourd'hui et prennent la responsabilité par rapport à leur groupe de supporters. S'il faut des sanctions financières, il va falloir en arriver là.
Nathalie Bois de la Tour, présidente de la Ligue professionnelle de football, est claire lorsqu'il s'agit de condamner.
J'ai bien dit, et je le répète, que pour certains supporters, ça s'apparentait à du folklore. Ça ne veut pas dire que c'est acceptable.
Mais elle reste floue sur les méthodes à employer.
Comment vous faites pour empêcher 20 000, 30 000 supporters à chanter dans un stade? Moi, je n'ai pas la réponse là-dessus.
Embarrassés, les représentants de supporters assis autour de la table affichent une certaine tolérance. Jean-Guy Rioux de Saint-Étienne.
On a quelques chants en tête qui peuvent faire penser à de l'homophobie et en fait qui sont depuis des lustres dans les stades.
Pour vous, c'est pas grave d'entendre PD ou enculé dans un stade?
Parfois, c'est dans le langage courant.
Pour ce supporter des Verts, un chant, c'est un peu comme une ola, une vague humaine qu'on peut difficilement stopper.
On termine avec votre contribution, vos suggestions, auditeurs d'Inter, pour dire stop au plastique à l'occasion demain de la journée spéciale sur Inter avec Combini. Nous sommes preneurs de toutes vos idées pour réduire, voire éliminer tout ce plastique qui nous entoure et nous pollue, comme cette petite bouteille d'eau
mais
à côté de moi.
Sébastien, d'ailleurs.
Je suis désolé, demain je l'aurai pas. Voilà. C'est sur les réseaux sociaux avec le hashtag le plastique. Non merci, on va essayer de changer durablement. Ce hashtag donc, le plastique. Non merci.
Non merci.
Parce qu'on le retrouve ensuite partout, ce plastique, à terre comme en mer. Le navigateur François Gabart le voit bien, lui qui est le plus rapide en solitaire à la voile autour de la planète. Il milite avec d'autres marins, mais il reconnaît qu'il n'est pas un modèle. Son bateau est bourré de plastique.
Malheureusement, non. Je n'arrive pas aujourd'hui à vivre absolument sans plastique. On essaye de diminuer un maximum l'utilisation de plastique, mais il se trouve que dans la nourriture que j'embarque à bord du trimaran, il y a des plastiques. Alors, je vous rassure, évidemment, je les jette pas à la mer, je les ramène à terre. En revanche, il y a à bord du bateau des plastiques. J'ai malheureusement pas mal de conditionnements qui sont en plastique. Ce que je peux dire, c'est à quel point c'est terrible de voir des plastiques et de voir même des plastiques le long des côtes. Heureusement, il reste des zones du monde qui sont un petit peu plus préservées. Mais c'est qu'une question de temps, parce que les plastiques, à un moment donné, vont se déplacer et tôt ou tard, quelque part, ces fragments de plastique vont se répartir partout dans le monde.
Voilà, François Gabart avec Jérôme Val. J'ai une petite bouteille en plastique sur ce bureau.
C'est la dernière fois, Sébastien.
C'est la dernière fois. Je vais utiliser la gourde en métal toute cabossée que j'avais quand j'étais petit, qu'on faisait de la randonnée.
Et ben exactement.
Que je mets dans ma voiture désormais avec de l'eau du robinet.
Oh, ça, vous avez une voiture, malheureux.
Le mec a tout faux.
Bon, ben nous aussi
je vends la voiture, je vends
on en parlera nous aussi demain au téléphone sonne, vos tactiques pour éviter le plastique. Justement, vous pourrez rester, Sébastien.
Je suis curieux. À demain.
Allez, à demain.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Sébastien Léas, quelques grisailles, mais surtout du soleil au programme de demain.
Oui, un peu comme ce matin, des nappes de nuages bas, voire des brouillards peuvent se former en fin de nuit. On retrouvera ces grisailles, notamment en Auvergne, dans les vallées, mais aussi entre les Hauts-de-France, la Normandie et le nord de la Bretagne. Avant la mi-journée, ces poches d'humidité auront disparu et le soleil déjà bien généreux ailleurs va illuminer tout le pays. La moitié sud et le Finistère garderont ce temps ensoleillé l'après-midi, mais sur le reste du pays, le ciel verra quelques cumulus fleurir. Ces bourgeonnements nuageux auront tendance à s'étaler, notamment au nord de la Seine, mais les éclaircies resteront le plus souvent larges et dominantes. Et puis voilà, c'est pas mal.
Voilà, c'est pas mal, ouais, avec des petites gelées encore cette nuit.
Oui, à la faveur du ciel dégagé de la nuit prochaine, les températures peuvent à nouveau passer sous la barre du 0 degré, comme à Auch, Chaumont ou Montluçon. En revanche, l'après-midi, les maximales profiteront du soleil pour repasser au-dessus des valeurs de saison. 13 degrés à Cambrai, Mulhouse, Metz et Cherbourg, 14 degrés pour Paris, La Rochelle, Dijon et Clermont-Ferrand, 16 degrés à Vannes, Lyon et Angoulême, 18 degrés pour Castelnaudary, Libourne, Fréjus et Calvi, et on ira jusqu'à 21 degrés du côté de Canet-en-Roussillon.
Sébastien Léas, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes du genre à ranger toutes vos affaires, Sébastien ?
Je suis du genre à toujours tout garder, surtout.
Eh ben, restez avec nous alors, vous nous intéressez, tiens, pour le téléphone. MMA.